Et tout de suite, un programme en rediffusion sur VOA Afrique.
Bienvenue à bord.
Les passagers de l'aventure sont priés de monter à bord. Alors, je suis sur les barres de l'eau en bon voyage.
Bon voyage tout le monde, ici votre commandant de bord Roger Muntu, la voix de l'Amérique en direct de Washington DC, la capitale américaine. Nous décollons ce soir avec une interview exclusive bien sûr de notre collègue Georges Léonard Sagnon, j'allais pour les intimes avec messieurs Guy Jouquet qui parle du mois des Noirs ici aux États-Unis, Black History Month, c'est ce mois, en écoutant de la bonne musique country ce soir. Attachez bien vos ceintures de sécurité, let's go.
Entre 20h et 21h, temps universel, sur VOA Afrique.
Bonsoir, monsieur Guy Joken. Comment allez-vous?
Ah, je vais très bien, mon frère Georges. C'est un plaisir de vous être avec vous à ce moment.
Plaisir partagé. Nous sommes en février et comme vous le savez, le mois de février est consacré ici au pays de l'Oncle Sam, je veux dire les États-Unis, à la célébration de l'histoire des Africains-Américains, qu'on appelait hier des Afro-Américains. Vous qui êtes un Africain de souche, mais qui êtes Américain, comment célébrez-vous ce mois-ci?
Ah, merci infiniment. J'aime souvent préciser que ce n'est pas une opportunité de l'histoire des États-Unis, de la contribution. Moi, j'insiste beaucoup sur la contribution des peuples d'ascendance noire aux États-Unis pour ce que nous connaissons aujourd'hui comme les États-Unis. Donc, non seulement le fait que nous sommes là aujourd'hui, mais c'est le moment vraiment de regarder, de réfléchir sur la contribution que les Noirs qui sont venus d'Afrique ont fait pour ce que nous connaissons aujourd'hui comme les États-Unis.
Quelle appréciation faites-vous de cette célébration au-delà de la reconnaissance de la grande contribution de ceux-là qu'on appelle nos devanciers, ceux-là qui ont lutté pour les droits civiques aux États-Unis?
Donc, je suis très heureux de reporter, et ça je le dis très souvent, qu'aujourd'hui, le statut, la contribution des Noirs, que des gens qui étaient comme toi et moi, qui n'étaient pas des citoyens il y a longtemps, a laissé des marques indélébiles. Okay? Et comme vous le savez, dans l'État de Maryland, nous venons de célébrer l'élection du premier Noir dans l'histoire de Maryland comme gouverneur.
Et vous parlez du gouverneur Westmore qui a été élu il n'y a pas longtemps.
Effectivement, il était élu en novembre et je pense que ça, il n'y a pas un résultat plus flagrant que celui-là qui montre que oui, les Noirs qui à une certaine époque étaient comme second citoyens vraiment sont en train, vraiment ont réclamé leur place à la table et aujourd'hui sont aussi respectés que les autres. Dans l'État comme celui de Maryland, vous voyez le chef du Parti démocratique par exemple, c'est une Noire, une dame Noire, la dame Jones qui est le speaker du State House. Ça, c'est le Parlement à l'État de Maryland, c'est une Noire.
Ou l'Assemblée générale.
L'Assemblée générale, oui. Donc c'est une Noire. Donc l'Attorney General, qui est le juge suprême de l'État, c'est un Noir dans un État où nous ne sommes pas plus de 15%.
Anthony Brown, donc, vous voulez parler du célèbre Anthony Brown, qui a été d'ailleurs vice-gouverneur pendant longtemps.
Vice-gouverneur pendant longtemps, effectivement. Donc, tout ça juste pour montrer que vraiment, au moment où nous célébrons, nous prenons une pause pour réfléchir un peu sur la contribution des Noirs aux États-Unis et dans l'État de Maryland, le bilan est plutôt positif. En ce sens que oui, nous sommes de plus en plus respectés. Nous avons, bien sûr, on est très loin d'avoir atteint ce que Dr. King appelait le promised land. Nous ne sommes pas encore là, mais on a le chemin, et on doit reconnaître le chemin parcouru est un chemin dont on peut être fier. Tous ceux qui sont battus, vous êtes causés, doivent être fiers de là où nous sommes maintenant, même comme nous savons que beaucoup reste à faire.
Beaucoup reste à faire, vous l'avez dit, le promised land, on n'est pas encore là. Qu'est-ce qui reste à faire?
Bon, comme je l'ai toujours dit, liberté, comme c'est un truc, c'est pas aucun dictateur. Ceux qui ont le pouvoir ne sont jamais restés un jeudi. Bon, voilà, vous qui n'avez pas le pouvoir, tenez le pouvoir. Hein. C'est un combat permanent, comme la liberté. C'est pas un acquis qu'on peut se coucher sur les lauriers et dire qu'on l'a acquis, non.
Dans le monde de la presse, dans le jargon journalistique, on dit que la liberté ne s'offre pas, mais elle s'arrache suite à des hautes luttes.
Exactement, c'est ça. Donc voilà une raison pour laquelle parfois on a l'impression de faire trois pas en avant, quatre pas en arrière, un pas en avant. Donc c'est vraiment une constante. On doit en permanence, on doit être en train de lutter. Et c'est un peu dommage que, bon, pendant au cœur de la guerre civile, quand nous avons l'esclavage, bon, après l'esclavage, on avait le racisme était encore très poussé, très une réalité dans la plupart des États aux États-Unis. C'était très facile parce qu'on avait un ennemi commun. Donc, c'était les Noirs et puis les Blancs, des gens de bonne volonté pouvaient se réunir parce que l'ennemi c'était facile d'identifier l'ennemi et le combattre. Bon, les autres de l'autre côté ont compris qu'il fallait vraiment se réadapter, ils sont réadaptés. Et tu vas voir les gens qui, pendant la journée, semblent être les amis des Noirs, bien, semblent promouvoir l'intégration et tout ça, alors que dans la nuit ou bien et pendant qu'ils passent des lois, ils passent des lois qui font en sorte que c'est beaucoup difficile pour les gens comme vous et moi de pouvoir pouvoir émerger, de pouvoir avoir des bourses pour aller à l'université, de pouvoir avoir des enfants qui font des internships dans des institutions qui vont les permettre de d'évoluer, d'avoir des loans, des banques pour pouvoir avoir des maisons décentes. Donc il y a eu à un certain moment, on a eu l'impression que le racisme était fini parce que bon, on semblait être égal, mais on a oublié le fait que en fait le pays ne régit pas les lois. Et parfois quand on ne regarde pas les lois sont ne sont pas encore les lois. Il y a plein de lois qui doivent être revues, qui doivent être changées pour qu'on puisse vivre dans un état vraiment où tous avoir les mêmes droits et les mêmes devoirs. Donc c'est ça qui à mon avis, nous empêche de pouvoir célébrer totalement. Mais nous y sommes.
Pensez-vous que le Black History Month doit être reformé? Est-ce qu'il n'y a pas un désintéressement? Parce que j'ai eu à communiquer avec une africaine-américaine qui est née ici, qui est même leader de communauté, et je lui ai demandé s'il y avait des activités prévues pendant ce mois, et elle m'a dit carrément qu'il n'y en a pas. Pensez-vous que vraiment il est utile, important de célébrer, de continuer de parler de Black History Month? Est-ce que les Africains américains eux-mêmes s'intéressent, notamment ceux qui sont nés ici et les Africains qui sont venus d'Afrique comme vous et moi?
Je veux répondre avec deux volets. Je me rappelle quand le président Barack Obama a été élu et il y a des gens qui sont venus qui disent « Bon, voilà, vous avez eu ce que vous voulez. Maintenant, vous avez un président noir, donc il n'y a plus de racisme et tout ça. On ne pouvait pas être si loin de la réalité. » Donc, il y a ça d'un côté et le fait que, oui, on a l'impression qu'on est arrivé alors qu'on est encore, n'a pas encore fait la moitié du chemin. Il y a ça. Et aussi, il faut d'abord comprendre quelle est l'importance, pourquoi ceux qui ont mis qui ont demandé que nous ayons déjà une journée pour le victoire et le noir, ou bien le mois, pourquoi est-ce que ça a été créé? Est-ce que les objectifs ont été atteints? C'est beaucoup plus sous cet angle-là que je vois la question. Donc, il y a des gens qui ne pensaient pas bien le début que c'était important. Donc, pour eux, c'est pas bon. C'est pas intéressant. Mais si nous nous accordons sur le fait que la journée a été créée tout simplement, comme je l'ai dit au début, pour que nous puissions réfléchir sur la contribution des gens et moi. Vous savez que une des choses qui est un problème majeur de l'Amérique, comme je vois, c'est le fait que nos jeunes qui grandissent ici n'ont pas de repères. Il y a un moment où c'est presque un acquis que bon, c'est pas vrai que tout ce qui est beau était blanc.
Que faut-il aujourd'hui pour leur donner ce repère-là?
Il faut continuer à éduquer. Et quand je dis, nos jeunes, donc, nos jeunes doivent avoir des hommes, savoir qu'ils peuvent grandir et devenir président des États-Unis, ils peuvent grandir et devenir gouverneur. Donc, rien n'est au-delà de leurs espérances. Et cela ne se fera que lorsque nous avons une société qui est égalitaire. Et quand je dis égalitaire, je sais qu'il y a des gens qui vont commencer à dire, oh mon Dieu, il est communiste et tout ça. Mais non, quand je dis, c'est l'égalité des chances. Nous ne sommes pas encore là, mais je pense que l'un des objectifs de ce mois, c'est vraiment que tous les enfants qui sont noirs, qui sont noirs, qui puissent savoir que, en fait, peut-être qu'ils ne savent pas qu'ils étaient des rois. Vous avez vu, même les films qui sont sortis ces derniers temps. On parle de Wakanda, on parle de Woman King, tout ça. En fait, tout ça, c'est très important. L'esclavage et puis le racisme qu'on a vécu, ce n'était pas seulement parce qu'on nous empêchait sur le plan physique, on était restant sur le plan physique, mais c'est aussi sur le plan psychologique et mental. Donc, je pense que c'est très, très important qu'un mois comme celui-ci soit utilisé, non pas pour qu'on puisse se coucher sur nos lauriers, qu'on puisse savoir que oui, en fait, en termes d'invention, en termes de contribution, en termes d'innovation, nous avons aussi des génies qui n'ont pas peut-être été célébrés comme les autres, mais qui sont là et qui peuvent nous aider à arriver là où nous voulons partir. Et sur ce plan-là, il dit non, le Black History Month est encore nécessaire parce que jusqu'à présent, il y a des points où les enfants pensent que la raison, la science est l'un. Hein? L'émotion est noire, la tienne est non. Je m'inscris en faux contre ça. Et je pense que c'est important d'avoir un mois pendant l'année où nous pouvons prendre un moment de réflexion pour exprimer aux jeunes que non, ils ont la capacité de changer le monde dans lequel nous sommes. Et nous avons le pouvoir parce que nous avons été des rois. L'histoire pharaonique, c'était les Noirs qui étaient en Égypte, qui ont créé l'Égypte et tout ça. Ça, c'est des choses qui ne sont pas expliquées aux jeunes tout le temps. Mais pendant un mois comme celui-ci, l'esclavage, la fin de l'esclavage n'est pas arrivée par hasard. Il y a des héros, il y a des gens qui ont offert de leur vie pour qu'on puisse avoir une certaine liberté. Donc, pour moi, je suis d'accord que il faut peut-être regarder ça sous un autre angle et puis trouver, augmenter à ce qui était fait, mais je ne pense pas que c'est le moment de croire que non, il faut oublier le Black History Month.
Alors, si aujourd'hui l'État de Maryland, qui est un État important, un État démocrate, a à sa tête un gouverneur, le tout premier gouverneur noir, est-ce que cet adage de Léopold Sédar Senghor a sa valeur? La raison est laine, l'émotion est nègre.
Bon, je m'inscris un peu en faux compte de cette conception-là, parce que en acceptant. En fait, qu'est-ce que la définition du racisme, c'est quoi? De croire que juste parce que quelqu'un a une certaine race, il y a certains attributs que non, mais nous savons aujourd'hui que la race, en fait, c'est beaucoup plus sociologique qu'une illustration de notre capacité de compétence. Nous avons des génies aujourd'hui qui sont noirs. Et même quand on regarde bien l'histoire de l'humanité, nous savons qu'il y a des noirs qui ont fait la différence par le passé. Donc, je crois que Merlin célèbre un homme, oui, lui-même l'a dit, hein. Il a dit, bon, il arrive que... il soit le premier noir, mais c'est pas pour ça qu'il a demandé le poste suprême dans l'État. Il y a des problèmes structurels. Vous voyez les noirs qui sont en prison. Il y a plus de noirs qui sont en prison. Par exemple, une histoire comme la drogue. Nous ne consommons pas plus de drogue que les blancs. Hein? Oui, mais les noirs qui ont été, les gens qui sont en prison pour avoir consommé la drogue, nous sommes disproportionnels. Disproportionnellement, c'est les noirs. Donc, il y a des problèmes structurels qui s'engagent à résoudre. Et justement, quand nous sommes là pendant un mois comme celui-ci, seulement de réfléchir un peu sur les solutions qui ont été adoptées à ce genre de problème, de voir comment on peut améliorer la situation, quelles sont les solutions innovatives qui peuvent venir pour qu'on améliore la condition de vie des Noirs et de la diaspora dans ce pays.
En restant avec l'État de Maryland, récemment donc, le gouverneur, le tout nouveau gouverneur, a signé ce qu'on appelle ici Civil Rights Heroes Day Proclamation. Qu'est-ce que cela veut dire concrètement?
Non, je pense que c'est tout simplement une reconnaissance du gouverneur qui pense qu'il veut exactement, il va dans la lueur. Votre question était très pertinente dans ce sens. Ben, est-ce qu'il faut avoir une journée juste pour avoir une journée? Et lui, en créant, c'est bien, c'est Civil Rights Hero, parce que quand c'est Civil Rights Hero, c'est pas seulement ça n'a rien à voir les Noirs, hein? C'est tous ceux qui sont travaillés pour que ce pays-ci, les gens puissent avoir des droits qui doivent être respectés. Dans Civil Rights Hero, nous avons des gens, nous, dans l'État de Maryland, on a la fierté d'avoir des penseurs les plus importants, ceux qui sont battus. C'est pas pour rien que le siège de NAACP est ici dans l'État de Maryland, en Baltimore. Le NAACP, c'est l'association qui s'est battue vraiment pour les droits civiques des Noirs. Donc, le gouverneur va se reconnaître qu'en fait, pendant un mois comme celui-ci, c'est très important de prendre une seconde ici et de reconnaître qu'il y a les champions qui sont battus pour que nos droits civiques. Bon, je sais que au-delà des états du pays, c'est justement que le droit civique, c'est quoi? En fait, c'est juste une manière de dire. Je dis souvent aux gens que, bon, quand nous avons dit droit civique, c'est le droit que vous avez d'après votre naissance. Vous n'avez pas besoin de faire quelque chose d'autre. Donc, ça s'identifie au droit de l'homme. Okay? Je dis à ceux pour nos auditeurs qui sont en Afrique et qui vont se demander droit civique, c'est quoi? Parce que j'ai souvent cette question qui est posée. Donc, les héros, c'est des gens qui ont vraiment travaillé pour que nous puissions être là où nous sommes aujourd'hui, pour que ce gouverneur puisse être élu, pour que les Noirs puissent être égaux aux Blancs dans ce pays, pour que chaque enfant qui soit né quelque part puisse avoir les mêmes opportunités, quelle que soit sa région, quelle que soit sa religion, quels que soient les revenus de ses parents. Donc voilà, cela doit être reconnu, et surtout l'égalité pour laquelle nous aspirons, et sur laquelle on a fait plein de progrès, on les doit à ces gens-là et ils doivent être reconnus.
Vous écoutez RM Show avec Roger Muntou.
Oui, c'est chaque soir entre 20h et 21h, temps universel. Nous sommes en train de suivre une interview exclusive de Georges Léonard Sagnon, bien sûr avec notre invité de ce soir, messieurs Guy Ndjoké, pour bien sûr ce mois des Afro-Américains, des Noirs, Black History Month and Diversity in America. Et on en parle bien sûr avec notre collègue Georges Léonard Sagnon et son invité. Nous revenons dans un instant, mais on parle de l'importance ou des biens bienfaits de la lecture, hein, parce que deux fois on ignore que la lecture est très très importante. Je le disais, ce n'est plus un secret, la lecture possède plusieurs bienfaits chez nos tout-petits, chez tout le monde, chez nous les adultes, chez les jeunes. Écoutez, lorsque elle est faite de façon régulière, la période de conte permet par exemple de développer plusieurs aptitudes et capacités, hein, à l'enfant, aux jeunes. Et donc il faut commencer quand ils sont encore trop trop jeunes là. C'est le sujet de cette semaine. J'attends vos réactions, vous qui aimez la lecture. On attend vos réactions bien sûr dans RM Show tout au long de cette semaine en dégustant de la bonne musique. J'en profite pour saluer tous nos amis qui nous écoutent ce soir au quartier Lokwangu, hein, c'est à Bangui.
Lock the door and turn the lights down low. Put some music on that's soft and slow. Baby, we ain't got no place to go. I hope you understand. I've been thinking about this all day long. Never felt a feeling quite this strong. I can't believe how much it turns me on. Just be your man. There's no hurry, don't you worry. We can take our time. Come a little closer, let's go over what I have in mind. Baby, lock the door and turn the lights down low. On the soft and slow. Baby, we ain't got no place to go. I hope you understand. Thinking about this all day long. Never felt a feeling quite as strong. I can't believe how much it turns me on. Just to be your man.
De vous appeler en direct de Washington DC. Ici, c'est votre commandant de bord, Roger Montou, la voix de l'Amérique. Quel plaisir pour moi de saluer nos amis qui sont en train de nous capter à Lemba, c'est à Kinshasa, Mokili, à Yaoué. Nos amis qui sont en train de nous capter aussi à Cotonou. Oui, nos amis de Cotonou qui nous captent aussi ce soir au Bénin. Merci beaucoup de rester à l'écoute de RM Show. Place à présent à notre segment English. We'll be right back. Hello, Miss Michelle Joseph. I hope you're having a great day, a great Wednesday. So what are we learning today?
Hello, everyone. Bonjour tout le monde. The word of the day, borrow. B-O-R-R-O-W. Borrow. Emprunter. To borrow a book from the library. Emprunter un livre de la bibliothèque. To borrow money. Emprunter de l'argent. She borrowed my car. Elle a emprunté ma voiture. Did you borrow it? L'as-tu emprunté? Oh, t'as une jolie robe. You've got a gorgeous dress. It's borrowed. C'est un emprunt. Where did you borrow it from? D'où l'as-tu emprunté? Borrow. Au sens figuré. I'll borrow that idea. Je vais t'emprunter cette idée. It's a loan. C'est un prêt. I borrowed it from the bank. Je l'ai emprunté de la banque. Puis-je t'emprunter? Je veux quelqu'un pour m'accompagner à la fête. Can I borrow you?
Les dernières informations culturelles avec votre commandant de bord, Roger Moutou, seulement ici, sur RM Show, sur VOA, à Fribourg.
Et voilà, put your hands up, ça c'est sûr les amis, n'oubliez pas de vous abonner sur mon compte Twitter, cherchez tout simplement Roger Moutou et abonnez-vous sur mon compte Twitter, envoyez-moi un message même sur Twitter, dis Roger, nous sommes abonnés sur ton compte Twitter pour te suivre aussi ici. On déguste de la bonne musique traditionnelle, comme j'allais dire, with country music, ce soir on écoute You Look Good In My Shirt, Tonight. That's correct. Et on continue avec vos réactions à notre sujet de cette semaine. Let's go.
You look great.
Fate in My Shirt Tonight. L'allez-vous par ailleurs rencontrer avec de la bonne musique. Et la deuxième partie de l'interview, cet entretien de Georges Léonard Fagnon et Monsieur Guy. Ce soir, qui nous parle de ce mois de Afro-Américain au Black History Month. Nous revenons dans un instant au Jam West. Peace Africa. Deuxième partie, comme on le fait chaque soir entre 20h à 21h temps universel, avec notre sujet de cette semaine, l'importance, les bienfaits de la lecture. Oui, le soir on oublie de continuer à enseigner à nos enfants. C'est quoi vraiment l'importance de la lecture? Oui, lire, ça fait beaucoup de bien, il y a beaucoup de bienfaits. Et on en parle cette semaine, nous vous écoutons, nous vous entendons, comme on aime bien dire, nous vous entendons. Mais on vous écoute en tout cas cette semaine pour vos réactions, plus 1-703-350-3731. La chanson qu'on écoute, Taylor Swift, You Belong to Me Tonight, yeah?
You're on the phone with your girlfriend, she's upset. She's going off about something that you said. She doesn't like that you're working now.
Short skirt.
avec Roger Moutou.
Roger Monteux, bonsoir à tous les auditeurs de la VOA Afrique et à tous les fans de RM Show. C'est Sénat Dodi Kwadio depuis Togo Lomé. Je suis journaliste, artiste, entrepreneur, guide touristique et promoteur. Vous savez, le sujet de cette semaine est très, très important. Les bienfaits de la lecture. Vous savez, avec la lecture, on découvre beaucoup de choses. Et avec la lecture, on découvre beaucoup de secrets. Les bienfaits de la lecture, elles sont énormes. Avec la lecture, l'apprentissage de l'éducation devient très facile pour les adultes et les enfants. Avec la lecture, on arrive à découvrir beaucoup de choses, car c'est dans les livres que les choses sont cachées, les secrets sont cachés. Donc en lisant, vous découvrez beaucoup de choses. Donc les bienfaits de la lecture sont beaucoup, est énorme. Donc avec la lecture, vous deviendrez plus mature et plus intelligent, et vous allez découvrir beaucoup de choses dans la vie. Donc la lecture, je le conseille pour beaucoup de choses, beaucoup de personnes. Lisez les romans, lisez les dictionnaires, lisez les livres, lisez la Bible, lisez le Coran, lisez beaucoup de choses, beaucoup de documents, et vous allez découvrir plein de choses, plein de choses. Et l'éducation, l'apprentissage des langues, tout vous sera facile. Donc la lecture, on découvre beaucoup de choses avec la lecture. Donc elle est bien, elle est bonne aussi. Donc je conseille tout le monde, surtout les enfants, les étudiants, de lire beaucoup. Lisez les romans, lisez la Bible, lisez le Coran, lisez les livres. Achetez les livres, allez dans les bibliothèques, lisez des livres, vous allez découvrir. Parce que c'est dans les livres que beaucoup de secrets, beaucoup de choses sont cachées. Donc je vous encourage à le faire, beaucoup et lisez beaucoup, car c'est très important et c'est nécessaire aussi. God bless, peace Africa.
Ici votre commandant de bord, Roger Moutou, la voix de l'Amérique, l'anglais, la blague du jour, l'actu, le sport. C'est chaque jour entre 20h et 21h, temps universel, sur VOA Afrique.
C'est sur VOA Afrique, bien sûr, chaque soir entre 20h et 21h, temps universel, mais aussi les week-ends, hein, exactement, les week-ends. Aussi chaque samedi, chaque dimanche, vous écoutez RM Show, seulement ici, sur VOA Afrique, en direct de Washington DC, et c'est votre commandant de bord, Roger Moutou, la voix de l'Amérique, toujours de la bonne musique, bien sûr. Winner at a losing game tonight, yeah?
Baby, try to find me somewhere inside of you.
avec Roger Mundou.
Vous êtes toujours à l'écoute de VOA Afrique et nous sommes avec le Camerounais, le grand panafricain Guy Tonken, qui nous parle de Black History Month. Alors, pour finir, monsieur Guy Tonken, vous avez été récemment élu à la tête de ce qu'on appelle ici Continental African Chair Diversity Leadership Council et ça a été, votre élection a eu lieu en début de ce mois de février. Quelle est l'importance et la portée historique de cette élection pour vous?
Merci mon frère pour cette opportunité d'expliquer un peu à tous les autres, à nos auditeurs, que vraiment et justement dans la même lancée que oui, des progrès sont en train d'être faits. Donc effectivement, j'ai été voté à l'unanimité, ça c'est le cas de le dire, pour comme le Continental African Chair. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut tout simplement dire que dans l'état de Maryland, je suis le lien entre les structures au pouvoir, le Parti démocratique, et vous savez que c'est un état démocratique, tous les instances sont démocratiques, je suis le lien entre le parti et nos frères et sœurs africains, tous ceux qui sont nés dans tous les 54 pays que nous avons en Afrique, je suis le constituant, je suis le lien entre eux et l'administration. Je dois les aider à s'organiser. S'ils ont des questions, que ce soit pour les instances du gouvernement, ils peuvent venir vers nous. Ben moi, je suis responsable. Je dois m'assurer que s'ils ont besoin de quoi que ce soit qui peut être disponible au niveau du gouvernement, et je dois aussi m'assurer que s'il y a des ressources au niveau du gouvernement, au niveau du parti qui peuvent profiter, qui peuvent améliorer la condition de vie de nos frères et sœurs africains qui sont ici, ça, c'est ma responsabilité. C'est une responsabilité que j'assume vraiment parce que ça va me donner l'opportunité vraiment d'essayer d'organiser notre famille. Vous savez, juste comme vous l'avez dit, je suis un panafricaniste dur, hein, de l'idée de Kwame Nkrumah, de faire fondateur.
Ça, nous le savons.
Et vraiment, je pense que nous avons les problèmes que nous avons eu en Afrique, c'est parce que les autres, hein, depuis la conférence de Berlin, les gens ont réussi à nous diviser, à nous conquérir. Si nous avions un gouvernement central où la responsabilité première était de servir le peuple, nous ne serons pas là où nos ressources seront utilisées pour pouvoir améliorer la condition de vie de nos concitoyens. Donc, ici, nous autres qui sommes dans la diaspora, nous pouvons apprendre ce que d'autres ont fait vers aux Juifs, par exemple, qui sont ici, mais l'État juif, l'État d'Israël, c'est qu'il peut compter sur eux. Donc, nous autres Africains qui sommes ici, si nous organisons bien, que nous comprenons comment le système fonctionne, ce n'est pas parce que quelqu'un t'aime, il est ton ami, non, il y a des intérêts. Avant et pendant les élections, nous devons être impliqués, savoir qui nous choisissons pour nous représenter au niveau des instances du gouvernement, parce que si nous le faisons de manière ordonnée, ils sont disposés à travailler avec nous, à répondre à nos aspirations, à être à nos côtés, et ça, c'est ma responsabilité.
Donc, et justement, l'un des défis qui vous attend, l'un des défis majeurs, c'est comment régler la disparité, une disparité apparente entre les Africains nés dans le continent et les Africains américains nés ici. Il faut reconnaître qu'il y a ce problème-là qui est un problème sérieux.
D'accord. Non, je pense que là, c'est vous qui avez touché le doigt quelque chose que je trouve très, très important. Et je vous dis que, bon, je viens d'être élu Continental Chair pour le Parti démocratique, mais en réalité, ce n'est pas la première fois. J'étais aussi le premier président d'un chapter de NAACP. C'est cette association qui défend les droits civiques des Noirs. J'étais le président né en Afrique, le premier président né en Afrique de cette structure qui a aidé à transformer l'Amérique en ce qu'elle est aujourd'hui. Quand le président Obama est devenu, quand il est accédé à la majorité suprême, l'une des choses qu'il a fait, c'était aller à un congrès de NAACP, dit merci, sans vous, je ne serais pas ici. Donc, justement, pendant ça, pendant que mon règne, et même avant mon règne, j'ai pu comprendre qu'il y avait donc justement ce genre de conflit. Ben, nous sommes tout simplement victimes de ce que la désinformation qu'il y a là ici, c'est diviser et conquérir. Vous voyez, on s'est divisé et conquis. Il y a des gens, de manière systématique, qui m'ont dit, moi-même, quand je suis là, oh là là, ils sont tous des paresseux, ils ne travaillent pas. Vous venez de la, vous êtes plus intelligents pour eux que eux. Pourquoi? Parce que vous venez de l'Afrique, vous n'avez rien sur vous. En un an, deux ans, vous avez une maison, vous avez ceci, vous avez cela. Eux, ils sont ici, tous qui font la drogue. Mais ceux qui le croient à cette histoire, c'est parce qu'ils ignorent ce que 400 ans de racisme peut faire sur vous. Je vais dire simplement que quoi? Que la réponse à ça, c'est l'éducation. Ok? Bon, comme vous le savez, je suis président du Continental African, oui. Par le passé, c'était, tout ça, c'était, on était les Africains, les gens nés en Afrique, et les Noirs américains étaient dans le même, englobés dans le même Diversity Leadership Council. Ok? C'était le même sous-groupe. Bon, mais, comme aujourd'hui, on comprend que non, par exemple, si tu es Noir américain, on parle d'immigration, c'est pas un problème qui t'intéresse.
Mm-hmm.
Alors, nous autres qui sommes nés en Afrique, nous savons que c'est un des problèmes qui nous tient le plus à cœur.
Tout à fait.
Donc, nous avons justement des problèmes, des priorités différentes. Okay? Mais à la fin de la journée, qu'est-ce qu'on veut? On veut avoir une maison, on veut avoir la sécurité, on veut avoir que nos enfants aient une éducation, un avenir pour nos éducations. Donc, on veut la même chose. Ce qu'on appelle les dénominateurs communs parfois. Okay? Mm-hmm. Donc, je sais, parce que j'ai déjà été là-bas, où les gens envoient des messages qui nous permettent de nous diviser. Je sais comment ça fonctionne. Donc ça, ça me donnera un avantage pour pouvoir aider à organiser notre population aussi. Mais je reconnais avec toi que ce ne sera pas une tâche facile. Parce que l'information, c'est devenu quelque chose qui est prôné. Les gens qui financent, tout ce qu'ils font, c'est de financer avec sur les médias sociaux, envoyer des informations, tout ça, pour nous diviser et nous conquérir. Mm-hmm. Nous avons vu, par exemple, pendant les ceux qui ont suivi ce qui s'est passé, comment Trump est arrivé au pouvoir, vraiment, les gens n'arrivent pas à comprendre comment, mais il y a plein de gens qui sont restés à la maison, ils sont allés voter, parce qu'ils ont reçu des informations sur lesquelles, du moins, des choses qui ne sont pas vraies. Donc, je sais que la tâche ne sera pas facile, mais je suis convaincu, vous commencez par un petit groupe, et vous avez les choses concrètes, vous avez quelques résultats concrets. Donc, vous savez, les gens aiment partir de ce qu'ils ont réussi. Donc, pour moi, la stratégie, c'est de petit à petit regrouper un groupe d'Africains et commencer à faire des choses sérieuses. Par exemple, je prends l'exemple, ma première activité, c'était d'avoir une réunion à Frédéric, où mon sénateur était là, tous les élèves politiques étaient là, ceux qui ont vu le travail que j'ai fait dans la communauté pendant plus de 25-30 ans, ils étaient là pour témoigner de ce qui est possible. Il y a plein d'Africains qui étaient là, mais moi qui étaient même très surpris. Là. Maintenant, il y en a qui ont dit vraiment qu'on doit travailler ensemble parce que vraiment, nous avons la chance d'avoir un de nos frères, non seulement qui est respecté de l'autre côté, mais avec qui on peut faire des choses, qui a l'expérience. Je leur ai dit, voilà une des choses qu'on veut. Une des choses, c'est avoir par exemple identifier déjà, savoir qui sont les Africains dans cette région de Frédéric, par exemple. Je voulais faire surtout l'état de Maryland, mais qui sont les Africains qui sont ici, qu'est-ce qu'ils font, savoir quelles sont leurs spécialités, comment s'organiser de telle manière que s'il y a des choses, nous pouvons nous réunir et prendre des décisions communes. On peut satisfaire tout le monde, mais il y a des choses où nous pouvons tous nous résoudre. Qu'est-ce qui est bon pour l'Afrique?
J'espère que vos compétences, vos activités ne s'arrêteront pas à l'état de Maryland. Il faut aller au-delà de tous les États-Unis.
Bien sûr. C'est mon objectif est que, comme je le disais tantôt, non, tout ce qu'il faut, c'est de voir monter quelque part que vous pouvez, que vous avez des résultats, vous avez une vision et que les gens vont voir. Oh mon Dieu, en fait, non. Je vais donner un exemple. Quand j'étais devenu président de NAACP, c'était les gens qui disaient, oh, vraiment, voilà un autre Nigérien, il va venir faire le fort one ici et tout ça. Mais la seule différence, c'est que certaines personnes qui me critiquaient dès le début, 6 mois après, quand ils ont vu les résultats, ils sont venus, ils se sont désolé, on s'est basé sur des informations erronées, et voilà maintenant comment on peut faire pour t'aider à réussir. Donc, je compte, j'espère avoir ce même genre de réaction par rapport à certains qui ne croient pas que nous pouvons faire la différence. Donc, je souhaite qu'on va commencer, on a commencé à Frédéric, tous les 24 juridictions de Maryland, je suis en train de m'organiser pour les visiter tous, où je vais prendre attache avec tous ceux qui veulent construire, et on sait que c'est pas tout le monde qui va nous rejoindre au début, mais avec ceux qui sont disposés à construire, on va travailler. Le plus important pour nous, bien sûr, nous sommes américains, mais ma réflexion, c'est ce qu'on regarde l'état d'Israël. Ok? L'état d'Israël est fort. Pourquoi? Parce que tous les jours qu'ils ont, ils savent qu'ils ont une maison quelque part. Nous qui sommes ici savons que l'Afrique nous attend. Hein? Nous ne croyons pas à cette Afrique que les gens caricaturent avec toutes les ressources naturelles que nous avons et tout cela. Nous pouvons changer les choses, mais nous devons nous organiser. Et si on le fait bien ici, on va pouvoir nous imposer pour pouvoir changer l'Afrique dans le bon sens.
Vous parlez de l'organisation et vous avez dit un mot qui était très très important pour moi, l'éducation. J'ai remarqué aussi que les Africains de la diaspora ont ce problème sérieux quand les élections arrivent. Ils boudent les élections alors que chaque voix compte dans une élection. J'espère que vous allez donc mettre l'accent sur l'éducation. Les enfants, par exemple, quand vous allez dans les écoles ici, les enfants africains qui sont bien encadrés, ils brillent. Ils sont premiers dans beaucoup de domaines. Ils excellent à l'école. J'ai été à une graduation ici et j'étais très impressionné. Tous les noms qui ont été appelés en première position, c'était des enfants africains. Une façon de vous dire que l'éducation, c'est le vecteur du développement.
Non, je suis très d'accord avec toi, Georges, parce que en fait, il y a une chose, quand je prenais ce banc, je vais commencer mes activités, j'ai pris un exemple. Ici, chez nous, nous devons, l'éducation, c'est la clé. En fait, ce qui est bien, tous nos parents africains le savent. Mais il y a aussi une autre éducation que nous ne comprenons pas. Par exemple, le community service. Bon, les gens viennent ici, après 10 ans, ils ont leur boulot, ils ont leur famille, mais ils ne savent pas ce qui se passe à côté d'eux. Aujourd'hui, c'est des candidats, il y a plein d'Africains dedans, mais aucun n'est élu que dans aucune instance, aucun n'est représentant dans les boards, les conseils d'administration et tout ça. Je me suis promis qu'avec une organisation, d'ici 2 ans ou plus tard, on nous aura envoyé des Africains qui sont élus, qui sont nommés dans toutes ces positions-là. Une des choses aussi, c'est que nos enfants, ils sont tous les meilleurs là-bas. Est-ce qu'ils reçoivent des bourses? Il y a des bourses, par exemple, que les élus sont disposés, qui donnent aux gens qui sont dans la communauté. Nous devons commencer à voir, faire partie de ces bourses-là si nous commençons à causer avec ces élus-là. Donc, quand je parle d'éducation, je suis vraiment convaincu de l'éducation avec mes activités en tant que président de la Fédération américaine des clubs UNESCO. Mais je dis aussi l'éducation, c'est l'éducation traditionnelle. Et nos parents, ça le savent déjà, ils investissent là-dedans. Mais aussi, s'éduquer en savoir qu'est-ce qui se passe autour de nous. Comment est-ce que, bon, si j'ai un enfant qui n'a qu'un mois pendant les vacances, est-ce que je peux lui permettre de faire un stage où il va passer à ramener l'argent, ou bien je vais lui permettre de ramener peut-être 2 000 $ parce qu'il a travaillé et qu'il a raté une opportunité d'aller, par exemple, passer un mois chez le congressman. Ça va l'ouvrir les portes dans le futur. Donc, je ne dis pas que l'un est mieux que le maître, il faut balancer tout ça. Donc, je suis d'accord avec toi que l'éducation, pour moi, c'est une priorité qui va nous permettre d'atteindre nos objectifs.
Guy Jonken, président de Continental African Share Diversity Leadership, c'est donc son nouveau poste où il a été élu tout récemment. Merci beaucoup, merci d'avoir répondu à nos questions.
Merci infiniment, Joyce.
Les dernières informations culturelles avec votre commandant de bord, Roger Moutou, seulement ici, sur RM Show, sur VOA Afrique.
Bonjour, Roger. Bonjour, très chers auditeurs, très chères auditrices. À propos, c'est Ibrahim et j'appelle depuis le Niger. Aujourd'hui, je suis dans un autre département. Et à propos du thème de cette semaine, pourquoi la lecture? La lecture est importante, et que ce soit jeune ou âgé, et pour notre culture. Pourquoi au Niger, avant, il y a des cours d'adultes? Et c'est très important pour les adultes aussi. Et peut-être que avec le temps, on va réintroduire ces cours d'adultes dans les villages. La lecture est utile pour comprendre certaines choses qui se passent et ailleurs et dans le monde. Mes salutations pour les mots du jour et à très bientôt.
M'ont écrit pour dire Monsieur Mountou, la lecture est très 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 importante et a beaucoup beaucoup de bienfaits. Merci de parler de ce sujet, même dans notre émission RM Show en anglais qui passe bien sûr au Nigeria, au Ghana, en Zambie et bien sûr en Somalie. Les pays anglophones qui reçoivent aussi RM Show, c'est notre sujet aussi de cette semaine. I hear you guys, thank you very much. Ah ouais, ils sont en train de nous capter aussi, hein, s'ils sont en train de capter ce segment français en français. Voilà les amis, on se retrouve demain dans African Music avec un invité peut-être spécial, peut-être une surprise, on sera ensemble. On est ensemble les amis, écoutez, bonne nuit, la nuit porte conseil, l'avion réatterre ici. Merci à Georges Le Narfagnon et à son invité, Monsieur Guy Jonke. Please don't go, we gotta go, job bless. Peace Africa.
C'était RM Show, une émission de VOA. Vous étiez à l'écoute d'un programme en rediffusion.